Mais il est 14h sur Transistor, reprenons nos esprits. C'est l'heure du journal d'actualité, il vous est présenté par Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 2 décembre, l'Assemblée nationale française se prononce à 16h15 sur le sujet de la reconnaissance d'un État palestinien. Sauf surprise, cette reconnaissance devrait être votée, mais sans les voix de la droite, certes favorable à la solution de deux États au bout d'un processus de paix, mais qui trouve que cette démarche empiète sur le domaine du pouvoir exécutif. Opposition sur la forme, mais pas vraiment sur le fond donc.
En France, de toute façon, la question de la reconnaissance d'un État palestinien reste très sensible politiquement.
Oui, à la fois, la cause palestinienne a toujours été très populaire dans l'Hexagone, mais c'est en France que vit la première communauté juive d'Europe. Rappelons néanmoins qu'il s'agit d'une résolution non contraignante, c'est-à-dire qu'à travers ce texte, le groupe socialiste, je cite, « invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit ». Prochaine étape, la lecture au Sénat d'un texte identique le 11 décembre.
Mais bien avant le 11 décembre, on vous donne rendez-vous à 14h15, puisque ce sera Céline, dans son édito international, qui reviendra sur ce dossier. Évolution récente du conflit israélo-palestinien, donc. Children Intifada, colonisation, et cette question. Un vote de reconnaissance à l'Assemblée française, peut-il vraiment changer les choses ? Dans le reste de l'actualité, tu nous emmènes à la mer, Thomas ?
Oui, mais alors, rangez vos maillots de bain, c'est très sérieux. Aujourd'hui s'ouvrent à Nantes les assises économiques de la mer et du littoral dans un contexte d'inquiétude à propos des quotas de pêche européens, à 15 jours d'un conseil des ministres européens sur le sujet. Au programme, 2 jours de table ronde, 80 intervenants et 1500 participants.
Et puis on a invité de marque aussi, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, puisque le Premier ministre Manuel Valls sera de la partie, puisque après avoir inauguré le site d'Alstom à Montoire de Bretagne, il doit rejoindre les assises dans un contexte tendu, je le disais, à propos des quotas européens. Des manifestations sont prévues à La Rochelle, à Saint-Nazaire et à Nantes, bien sûr, où sera le Premier ministre.
Et pourtant, il n'y a pas que les pêcheurs qui profitent de la venue du Premier ministre pour exprimer leur mécontentement, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un contexte tendu pour l'exécutif. 7 rassemblements de manifestants sont prévus à Nantes aujourd'hui. Alors en plus des pêcheurs, les syndicats de salariés CGT, FSU, Solidaires et Force Ouvrière formeront un deuxième cortège. Et pour compléter cette liste des 7 mécontents, eh bien, il faut rajouter des parents d'élèves nantais, des bonnets rouges, des militants pour la réunification de la Bretagne, des Nantais pour la famille et... le collectif Alternative à l'austérité.
Bon, après ces assises de la mer, tu continues à nous parler d'économie française. Une bonne nouvelle inattendue ?
Oui, et c'est même un petit miracle, Marie. La France est sur le point de réussir enfin à exporter les avions de combat Rafale de Dassault Aviation.
Enfin.
Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a rencontré lundi son homologue indien. Ils se sont mis d'accord pour surmonter leurs différends en vue de la finalisation d'un contrat estimé à 12 milliards d'euros portant sur la vente de 126 Rafales. S'il aboutit bien, il s'agirait du premier contrat à l'exportation pour les Rafales, dont le lancement date tout de même de 1989. Miracle, je disais.
Tu nous évoquais l'Inde à l'instant. Il est temps d'aller voir ce qui se passe dans le monde en ce 2 décembre.
Eh bien, c'est à Hong Kong que je vous emmène maintenant, chers auditeurs. Hier, la police a fait usage de la force pour repousser les militants pro-démocratie qui ont tenté dimanche d'encercler le siège du pouvoir. Après les heurts entre policiers et manifestants, dans la nuit de dimanche à lundi et encore lundi matin, eh bien la police, oui, a décidé hier de disperser la foule de cette révolution des parapluies. Souvenez-vous, débutée le 28 septembre dernier. 40 interpellations, des violences policières et l'usage du gaz au poivre. Voilà ce qu'il s'est passé hier, Marie, à Hong Kong.
Alors, les observateurs parlent d'escalade. Peux-tu, pour nos auditeurs, rappeler les causes de cette escalade, Thomas ?
La lassitude, en fait, Marie. Ça fait plus de 2 mois que le mouvement a été lancé. Excusez-moi. Or, sa popularité à ce mouvement, il s'est beaucoup érodé. Les 7 millions d'habitants d'Hong Kong, ils sont excédés par les embouteillages monstres causés par les manifestations quotidiennes. Et puis, il y a la frustration de ne voir aucun résultat. En effet, depuis le début du conflit, il n'y a eu qu'une seule séance de négociation entre manifestants et autorités locales et ça n'a débouché sur rien de concret. Du coup, du côté des manifestants, avec cet encerclement symbolique, on avait voulu marquer le coup pour raviver la ferveur populaire qui avait accompagné le mouvement à ses débuts. Du côté des autorités locales maintenant, si l'on s'est permis une répression appuyée, c'est justement parce que le mouvement perd en soutien et en exposition médiatique.
Tu nous parles de frapper les esprits. Les leaders du mouvement pro-démocratie viennent de prendre une décision inattendue, si j'ai bien compris.
Bah oui, Marie, c'est tombé ce matin. Les trois fondateurs d'Occupy Central, le principal mouvement manifestant, viennent d'annoncer qu'ils allaient se rendre à la police et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Ils se rendront tous trois à la police mercredi pour montrer leur engagement envers l'état de droit. La reddition n'est pas un signe de lâcheté. Se rendre, ce n'est pas échouer. C'est la dénonciation silencieuse d'un gouvernement sans cœur, a lancé Benitaï, leader étudiant devenu le visage de cette révolution des parapluies. Il a rendu hommage au courage des occupants, mais la police est, selon lui, hors de contrôle.
Drôle de fin donc pour la plus grave crise politique qui est connue à Hong Kong depuis la rétrocession de 1997.
Bon alors, fin je sais pas Marie, mais tournant ça c'est sûr, puisque les mouvements pro-démocratie divergent sur leur mode d'action et des voix s'élèvent pour continuer la mobilisation, tel le collectif Scholarism.
On en aurait presque oublié quelles étaient les revendications de cette révolution des parapluies à l'origine.
Ah oui, c'est ça qui est le plus paradoxal. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'Hong Kong, c'était une colonie britannique. Mais depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong jouit de droits qui sont inconnus ailleurs en Chine, comme la liberté d'expression ou le droit de manifester. Or, ce sont ces libertés qui semblent aujourd'hui menacées. En effet, pour la prochaine élection du chef de l'exécutif en 2017, Pékin a réservé un comité de grands électeurs, majoritairement favorables au Parti communiste chinois, bien sûr, le soin de présélectionner les candidats pour Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie jugent cette situation inacceptable et demandent le suffrage universel direct.
Dans le reste de l'actualité étrangère après Hong Kong, on parle de l'évolution récente d'un autre conflit ?
Eh bien oui, le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes de la région de Lugansk ont conclu un cessez-le-feu total sur la ligne de front. Il entrera en vigueur à partir du 5 décembre. La décision daterait du samedi 29 novembre, mais elle a été officialisée seulement ce matin.
Affaire à suivre donc. Après l'évolution des conflits à Hong Kong et en Ukraine, on conclut sur l'évolution d'un projet économique. Le futur d'Ariane est sur la table des ministres européens aujourd'hui ?
Oui, et donc direction Luxembourg, où les ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne vont se prononcer sur le développement d'un nouveau lanceur européen, Ariane 6, pour succéder dès 2020 à Ariane 5, très fiable mais trop cher face au Falcon de l'américain SpaceX. La France a réussi à rallier l'Allemagne, qui était d'abord réticente à ce projet. Mais pour la France, il s'agit d'un enjeu de taille du côté de l'économie, puisque sur les 35 144 emplois directs que crée l'industrie spatiale en Europe, selon les chiffres de 2011, 12 736, presque la moitié, concernaient des Français.
Merci Thomas pour ce journal.